tout seul, tu sais. Pas d'argent, pas de maison. Pour toi, il y aura moi. Pour moi, il y aura que toi.
Je cultive mon mystère.
Je sais pas, j'ai l'air de vous allumer.
Non, tu sais, c'est un état d'esprit qu'on a perpétuel et c'est pas la haine.
Je serai toute ma vie marqué par ce livre et qui sera comme l'horizon indépassable de mon travail.
Radio Poulpe sur Radio Campus Paris.
Tour. C'est son tour d'incarner le mythe de l'enfant prodige, la caste de ceux qui réussissent vite, très vite. Un premier rôle à 12 ans, une dizaine de films depuis. Quelques séries aussi. La classe libre du cours Florent, un an, le Conservatoire National d'Art Dramatique, ensuite. L'occasion de sa première grande représentation officielle, Novecento d'Alessandro Baricco. Il y aura fallu 10 ans, 10 ans de 2006 à 2016 pour se hisser sur les planches de la place Colette, pour rejoindre la troupe des comédiens nés, la dite comédie française. Un parcours en ligne droite, en somme, une chute libre vers le succès. Il a 23 ans, l'innocence et l'insolence qui vont avec. Un visage de malice et de mystère, vous savez, ce dont on ne sait pas discerner ce qu'ils veulent nous dire, de ce qu'ils disent vraiment. Un physique empreint de romantisme, le regard profond et les cheveux sombres. Il s'appelle Julien Frison et c'est le premier invité de Radio Poulpe.
Et quand on commence au cinéma à 12 ans et qu'on travaille après sans arrêt, qu'on fait tout avant tout le monde, on entre à la Comédie Française à presque tout juste à peine 17 ans, on en ressort d'ailleurs aussi vite, et puis on se lance dans des films, dans énormément d'aventures. Est-ce qu'on a le temps de vivre sa vie quand même?
Bonsoir Julien Frison.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir.
Est-ce qu'on vit sa vie en commençant si jeune? C'est la question posée à Isabelle Adjani dans l'extrait qu'on vient d'entendre en 1981. Est-ce que toi, tu t'es déjà posé cette question?
Oui, mais ça fait se poser d'autres questions, en fait, quand on commence très jeune. Moi, j'avais commencé à tourner, donc pas du tout de théâtre à cette époque-là, mais par le biais de casting sauvage, ma sœur m'avait mis là-dessus, et du coup, je m'étais mis à faire des castings, et je m'étais mis à tourner jeune, et la question qui se posait, c'était... Elle est venue plus tard parce que à ce moment-là, il y a beaucoup moins de concurrence, donc on se laisse porter par une espèce de vague parce que on est jeune, on tourne, du coup il y en a pas tant que ça, on n'est pas si mauvais peut-être, j'imagine, du coup on enchaîne plus ou moins les tournages et après on a 18 ans et on se demande est-ce que je fais ça parce que je suis doué pour ça ou est-ce que je fais ça parce que je surfe sur une espèce de succès avec moins de concurrence et du coup on, à 18 ans, moi, je me suis vraiment posé la question est-ce que je suis doué pour ça ou est-ce que je vais me retrouver dans l'embarras dans 2 ans quand je me retrouverai face à des gens qui font des études de théâtre, qui travaillent toutes les semaines, qui sont de vrais bosseurs, quoi. Et moi, qui arrive là avec certes de l'expérience, mais qui n'a jamais vraiment...
Oui, tu disais, c'est marrant, dans une interview à Marc-Olivier Fogel sur RTL, que Jeanne, c'est toi déjà qui demandais à ta mère de t'inscrire à des castings. Donc ça, comment est-ce qu'on en vient enfant à se tourner vers le métier d'acteur comme ça, à vouloir faire ça?
En fait, ma mère m'avait inscrit dans une agence de publicité avec ma sœur très jeune et j'ai vite compris que c'était l'enfer et que j'allais me faire charrier dans la cour de récré jusqu'à la fin de mes jours. Et du coup, je lui ai demandé à un moment... d'arrêter de me foutre sur des castings de pub, que ça me plaisait pas du tout, et je lui ai demandé si c'était possible de me mettre sur des castings de films. Elle avait pas trop de contact à ce niveau-là, mais ma sœur commençait un petit peu, elle s'était tournée vers elle avait envie de faire du cinéma, la télévision, donc elle m'avait mis en contact comme ça avec une directrice de casting, et après les choses se sont enchaînées super vite et j'étais très content parce que j'ai toujours voulu, j'ai toujours été passionné de cinéma.
Et donc quand on arrive comme ça sur un tournage à 12 ans, est-ce qu'on prend ça uniquement comme un loisir, un divertissement, ou est-ce qu'il y a déjà une volonté de faire ses preuves, de montrer ce qu'on vaut?
Il y a une volonté de faire ses preuves, il y a une volonté de faire bien les choses, mais il y a quand même une espèce de...
Ça reste la récréation quand même.
C'est ça, ouais. C'était quand même génial pour moi de rater l'école, d'aller là-bas, de rencontrer des gens super, de jouer la comédie et de gagner ma vie en faisant ça. Enfin, c'était inespéré pour moi. Enfin, je n'avais même pas eu le temps d'en rêver pour que ça se passe, quoi. Enfin, c'est arrivé super vite. Et... Mais, bon, je vais pas dire que j'étais... J'ai toujours été assez humble. Hein. Je m'y croyais pas du tout, même à l'école, je me la pétais pas. Mais il y avait quand même, je pense, une facette de moi très cachée qui se disait, bah, s'ils veulent... S'ils m'ont pris, c'est qu'ils aiment bien ce que je fais et que j'ai pas spécialement besoin de travailler outre mesure, que je suis pas si mal. Et bon, je le cachais très bien, j'étais déjà, enfin, j'étais assez malin que pour ne pas le dire. Donc je l'ai caché, mais quand j'ai réalisé plus tard à 18 ans que si, enfin, quand j'étais un peu plus vieux, qu'il fallait que je travaille si je voulais faire des progrès.
Et à côté de cette intrusion jeune dans le monde du cinéma, est-ce que tu t'intéressais déjà au théâtre enfant ?
Eh ben pas du tout justement, parce que comme beaucoup de jeunes, j'avais une vision complètement fausse du théâtre. Enfin, j'avais le peu de fois où j'avais été au théâtre, je viens d'un petit village en Belgique, donc c'était pas forcément évident. Mes parents n'allaient pas du tout souvent, quasi jamais au théâtre en fait, et nous on y allait avec l'école une fois. Tous les 3 ans, voir la pièce qui vendait aux scolaires et du petit village où j'étais, qui n'était pas forcément, je dis pas qu'elle était mauvaise, mais c'était pas forcément le théâtre qui fait rêver tant que ça. Et du coup, je m'étais dit, oh, le théâtre, il joue bizarre. Je préfère le cinéma. Moi, je veux faire du cinéma. Je ferai du cinéma toute ma vie. Je ferai jamais de théâtre. Et après, en fait, quand j'ai eu 18 ans et que j'ai commencé à faire mes études de théâtre, où je suis arrivé au cours Florent, on m'a emmené au théâtre, on m'a montré des choses, et j'ai compris qu'en fait le théâtre c'était génial et que c'était formidable.
Oui, tu parlais de tes parents. Jean Cocteau disait qu'un enfant prodige, c'est un enfant dont les parents ont beaucoup d'imagination. Les tiens de parents, comment est-ce qu'ils vivent aujourd'hui ce qui t'arrive ?
Ils sont très très heureux. Ils sont venus me voir aux Français, donc pour la première fois en mai dernier, et ils étaient très très émus. Ouais, ils avaient les larmes aux yeux parce qu'ils m'ont... Ils m'ont vu partir pas très sereinement quand je devais avoir... j'avais 18 ans... Non, je venais d'avoir 19 ans. Ils m'ont vu partir et ils n'étaient pas du tout sereins avec mon sac à dos. J'avais pas de logement à l'époque. J'avais dit, mais c'est bon, je vais squatter chez un pote. Je vais trouver un logement sans problème. Alors que c'est pas du tout le cas. C'est vraiment très difficile de trouver un appartement à Paris. Mais je ne le savais pas du tout. Donc je suis parti avec mon sac à dos comme ça. Et en arrivant, mes parents, ils étaient terrorisés. Ils m'ont dit, Julien... Donne-toi un an, mais après tu reviens et tu fais des études sérieuses. Quoi.
Oui, parce qu'en plus, c'est ce que tu disais, ils n'ont aucun rapport avec le monde du théâtre aussi.
Non, pas du tout. Mon père, il travaille dans l'immobilier, et ma mère, elle est déléguée médicale. Enfin, ils ont... Et dans la famille, on a... Il n'y a aucun...
Et donc, ils ont plus facilement concevoir un avenir pour toi dans le cinéma que dans le théâtre au début ?
Ouais, beaucoup, beaucoup.
Ça les rassurait plus ?
Mais comme je disais, il y avait très peu de théâtre là où je vivais, là où on vivait, et du coup ils n'avaient pas du tout cette notion du théâtre comme un métier. Ils avaient la notion fausse du théâtre comme une activité en parallèle, et ils disaient Julien, fais du théâtre, mais continue à essayer de faire du cinéma et de la télé, parce que ça c'est important, ça c'est bien, alors que c'est complètement faux.
Dans ton parcours, il y a aussi la classe libre du cours Florent et le conservatoire d'art dramatique. Qu'est-ce qui a été le plus enrichissant dans ces deux formations ?
Mais la classe libre, j'y ai passé vraiment très 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 peu de temps. Même pas du tout. J'étais arrivé à Paris, j'avais passé les deux concours la même année, et j'étais rentré à la classe libre, et ensuite ils m'ont appelé pour me dire de rentrer au conservatoire. Donc j'ai fait très très peu de j'ai dû faire 2-3 cours en classe libre, et finalement je suis parti au conservatoire.
Et le conservatoire national d'art dramatique, quasiment tous les acteurs qui rentrent à la tous les comédiens qui rentrent à la Comédie Française, ils passent. Adjani, c'est une des seules exceptions. Qu'est-ce qui t'a le plus appris dans cette formation ?
Ça m'a appris plein de choses, parce que Le cours Florent, c'est génial, hein. Il y a plein de super qualités, mais ce qui est vraiment fantastique au conservatoire, c'est qu'on est peu, qu'on a plein de cours différents tout le temps, et qu'on est à 30 comme ça, ou à 15, on est séparés en deux, et qu'on est comme ça pendant 3 ans, on se connaît, on se rencontre, on veut faire des projets ensemble, on veut faire du théâtre ensemble. On apprend à chanter, on apprend à danser, on apprend même à faire de l'escrime, même si ce n'est pas toujours très utile. C'était quand même très amusant.
Et est-ce qu'il y a des rencontres dans ces formations, dans ton parcours en général, qui ont compté plus que d'autres pour toi ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a les coups de cœur. Et les coups de cœur artistiques et amicales, et ça se mêle parfois et ça fait des rencontres incroyables. Mais par exemple, au cours Florence, ça a été mon professeur qui s'appelait Cyril Enrep, avec qui je garde de très très bons contacts. Et que
oui, il y a beaucoup d'acteurs ou de comédiens souvent qui parlent d'un professeur qui a un peu changé leur vie, qui les a rassurés, qui les a affirmés dans ce qu'ils voulaient faire.
Mais moi, ça a été au cours Florence, ce monsieur Cyril Enrep, et sinon ça a été au conservatoire, un ami à moi qui s'appelait Emmanuel Benoît, qui était metteur en scène en parallèle et avec qui on a eu une rencontre très grande. Et bien sûr que mes professeurs m'apportaient, mais avec lui il m'a rencontré bien au-delà de ce que m'ont rencontré mes professeurs. Du coup, il pouvait m'aider encore plus que mes professeurs. Il m'a vraiment fait beaucoup avancer. Il m'avait mis en scène dans un seul en scène qui s'appelait Novecento, dont tu as parlé tout à l'heure. Et là-dessus, il m'a fait progresser, mais énormément.
Radio Poulpe sur Radio Campus Paris. We'll be right back. Radio Poule sur Radio Campus Paris.
Are you ready for your prime time workout?
C'était Fresh Blue de Monkey. Et comme c'est la soirée des premières fois, Lune nous a rejoint en studio pour sa toute première chronique radio. Bonsoir Lune.
Bonsoir Jules, bonsoir Julien.
Bonsoir.
Ce soir, tu nous parles culture.
Oui, la culture. Ouh, petit frisson dans le dos. La culture, ce qui est différent, ce qui se transmet, ce qui est le propre de l'homme. Chaque mois, dans cette émission, nous recevons des jeunes espoirs de la scène culturelle française. Les étoiles montantes du cinéma, théâtre ou de la gastronomie. Du coup, je me suis dit, j'ai besoin d'aide. Et tandis que Jules interviewe un jeune, moi, je vais voir les morts.
Les morts, c'est-à-dire ?
Oui, les morts, tu as bien entendu. C'est la chronique d'une conversation avec les morts. Bah oui, ceux qui sont plus là, au paradis, ou en train de se faire piquer les fesses par des petits diables en enfer. Je suis une poltronne, et comme j'étais incapable de faire ces chroniques toute seule, je suis partie chercher de l'aide chez les morts. Et aujourd'hui, c'est Julien Frisson qu'on reçoit. Alors bon, on me dit, Lune, tu vas faire une chronique sur le nouveau pensionnaire de la Comédie Française, le plus jeune, une star peut-être. Parce que, admettons-le, je vous l'annonce, Julien, vous êtes tiré d'affaire. Mais si, on aura plus de chances de vous voir à l'affiche de la prochaine grande biographie cinématographique de Christian Dior ou du prochain film sur 5 potes parisiens que vous voir galérer au Festival d'Avignon avec des pancartes dans toute la ville. Ça y est, c'est gagné. Alors j'avoue, j'avais un peu le trac.
Très bien, très bien. Mais alors, qui est-ce que tu es allé voir ?
Eh bien, pour cette première chronique, j'ai décidé de taper fort. Je suis allé voir un grand nom du théâtre. Monsieur Louis Jouvet. J'avais des questions, je voulais comprendre un peu mieux le métier de comédien avant de vous rencontrer, Julien. Mais je vous préviens, cette chronique ne va pas se transformer en biographie bande d'incultes. Hein. Vous n'avez qu'à vous renseigner tout seul, même si évidemment j'ai dû relire plusieurs fois sa fiche Wikipédia avant d'aller le voir. Du coup, j'ai pris mon passe Navigo et me voilà partie pour le cimetière de Montmartre un samedi soir. C'est beau le cimetière de Montmartre, vous pouvez pas savoir. J'arrive, il pleut évidemment, et il fait froid, et je me mets à chercher son caveau. J'étais toute excitée, c'était la première fois que je vais aller parler à un mort. Après une vingtaine de minutes de marche entre toutes ces tombes, je trouve enfin celle de Monsieur Jouvet. Alors bon, je commence à toquer, je demande si Monsieur Jouvet est là, si on peut parler avec lui. Voilà, je me présente, Lune Bourgogne pour Radio Campus, j'ai des questions. Je prends ma voix la plus douce, la plus courtoise, parce que quand même, c'est pas n'importe qui le monsieur. Et vous savez ce qu'il me répond, Monsieur Jouvet ? Il me dit qu'il est pas mort pour ensuite être réveillé par une petite bourgeoise, hein, que je suis bien gentille de vouloir lui poser des questions, mais il est en train de se reposer après une vie de fou, et que c'est pas des façons, ça, de réveiller les morts. Bon, très bien, ça c'est dit, mais j'insiste encore, je m'excuse en disant au Pachas que je ne suis absolument pas une bourgeoise, que j'habite dans le Marais, certes, mais rien à voir avec la bourgeoisie. Et que vraiment, quel honneur s'il répondait à mes questions. Finalement, il finit par sortir de sa tombe et vient s'asseoir à côté de moi. Il est habillé dans un costard très élégant, tout en noir. Il n'a pas beaucoup changé des photos qu'on peut trouver de lui. Les cheveux plaqués en arrière, un grand visage creusé, le regard perçant et droit. Bon, juste le teint qui est vraiment très très blanc, voilà.
Mais alors, quelle question tu lui as posée à ce monsieur Jouvet ?
Eh bien, ma première question, évidemment, c'était de savoir c'est quoi un bon comédien, un très bon comédien. Bon, mais il m'a regardé un peu de biais, puis il m'a demandé si j'en avais d'autres, hein, des questions comme ça, des questions cons, hein, que si je l'avais fait sortir de sa tombe pour des questions aussi basiques, j'avais qu'à lire ses livres. Parce qu'il n'en savait rien, lui. Aucune recette magique, m'a-t-il dit. Mais, devant ma mine dépitée et dégoulinante maintenant, comme il pleuvait, il me donne une petite réponse. Il me dit qu'il n'y a qu'un moyen d'éprouver ou de contrôler la nature d'un grand comédien, c'est de lui confier un grand rôle. Que lorsqu'on impose Hamlet ou Tartuffe, quels que soient ses dons, l'élève a une façon particulière d'exproprier ou d'approprier le personnage, qu'il n'a encore aucune des qualités suffisantes pour jouer Alceste, mais la manière dont il réagit dans ses rôles permet de connaître ses talents et d'orienter sa vocation. Ça y est, j'étais scotchée. Monsieur Jouvet avait répondu à ma première question. Alors j'enchaîne en lui demandant ce qu'il pense de la grande institution qu'est la Comédie Française. Eh bien oui, comme notre invité vient depuis moins d'un an d'y entrer. Mais là, alors là, j'étais pas prête pour cette réponse. Ah non, vraiment pas. Il me répond, je saurais pas vous dire ma petite, j'ai refusé deux fois d'y entrer. Louis Jouvet refusait la Comédie Française. Alors je lui demande une explication. Mais comment cela se fait, monsieur Jouvet ? Pourquoi ? Et tout en se levant pour redescendre dans sa tombe, parce qu'il commençait à être fatigué, hein, il me répond « Mettre en scène, me dit-il, c'est servir l'auteur, l'assister par une totale, une aveugle dévotion qui fait aimer son œuvre sans réserve. » En résumé, la mise en scène est un tour de main, un tour de l'esprit et du cœur, un comportement de la sensibilité où doit entrer tout ce qu'il y a d'humain, pas plus ni moins. Et il repartit chez les morts. Bon, je vous avoue, hein, j'ai pas vraiment compris pourquoi il m'a répondu ça non plus. Bon, mais comme disait Archibald Soper, un de ses grands rôles dans le film Drôle de Dame, drame, moi j'ai dit bizarre, comme c'est bizarre.
Eh bien, merci beaucoup Lune d'avoir ressuscité le temps d'une chronique loin des joyaux de notre patrimoine culturel. Vous écoutez toujours Radio Poulpe et nous sommes toujours en compagnie de Julien Frison. Julien Frison, après 10 ans passés au cinéma, tu as rejoint le monde du théâtre. Qu'est-ce qui a le plus changé quand tu es passé du métier d'acteur à celui de comédien ?
Ça a été le temps libre, j'en ai eu beaucoup moins d'un coup. J'en ai eu beaucoup, beaucoup moins. Et tant mieux, parce que ça m'a... Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un métier très riche, un métier qui demandait un investissement total et que... un métier de passion, en fait.
Et t'as vraiment eu l'impression de découvrir un métier totalement différent ou t'avais quand même des bases qui étaient les mêmes ?
Mais je pense que les bases sont les mêmes, mais qu'on me les avait jamais données à l'époque et que, comme je disais tout à l'heure, que j'étais arrivé là un peu par hasard, c'était un rêve secret, mais j'y suis quand même tombé avec beaucoup de chance et par hasard. Et du coup, je suis arrivé là et j'ai dû attendre d'avoir 18 ans, d'être dans les cours, d'avoir des professeurs qui m'aiguillaient pour acquérir la rigueur, pour comprendre qu'en fait, c'était un métier à part entière et que ça demandait beaucoup de travail et beaucoup de rigueur. Ouais.
Et justement, au moment de rentrer dans la Comédie-Française, ça a été difficile de trouver ta place au sein de la troupe ?
Non, ça a été un accueil incroyable. On parle souvent du panier de crabes et de tout ça, mais pas du tout. Enfin, peut-être que ça a été comme ça à une époque, j'en sais absolument rien, mais là, ça a été un accueil plus que chaleureux. Ça a été... Bon, en même temps, j'étais complètement dopé à la joie à ce moment-là. J'étais encore dans les nuages. Hein. C'était impossible pour moi d'arriver... Non, je suis pas très bien aujourd'hui, je tire la gueule. Non, j'avais une espèce de banane énorme pendant un mois. Elle est toujours là, d'ailleurs, un petit peu, mais...
Et on rencontre vite tous les pensionnaires, tous les comédiens de la Comédie-Française ou tu travailles plus en petits groupes ?
On en rencontre très vite quelques-uns et après, je pense qu'on se rencontre très vite à partir du moment où on travaille ensemble. On se rencontre, on fait connaissance, mais on se rencontre vraiment à partir du moment où on travaille ensemble. Les connexions se font beaucoup plus vite dans le travail, je trouve, et on atteint vite ça arrive vite au stade d'amis, d'intimité, tout de suite dès qu'on travaille avec quelqu'un.
Oui, la saison dernière, tu as interprété ton premier rôle au sein de la Comédie-Française, c'était Bobin dans Un chapeau de paille d'Italie de La Biche. Qu'est-ce qui t'a plus marqué dans cette première expérience à la Comédie-Française ?
Ça m'a déjà surpris, je peux raconter un peu toute...
Ouais, vas-y.
Donc j'ai eu le coup de téléphone d'Éric Ruff, de l'administrateur général, 2 jours avant d'arriver. J'étais en Auvergne avec des copains, on était en train de faire monter un racine au milieu des vaches là-bas, et c'était très sympa. Et donc il m'appelle, il me dit, voilà Monsieur Frison, Julien, ça vous dirait de rentrer, voilà, il faut venir signer après-demain. Donc le premier truc qui m'a surpris là-bas, ça a été à quel point les choses vont vite, quoi. Et donc j'ai dû prendre une espèce de mini coucou à Le Puy-en-Velay là pour arriver à Paris. Donc là j'ai été signé et le jour même de la signature, on était en répète, en salle Fersen, en train de répéter l'acte 4 du Chapeau de paille d'Italie. On venait de me donner la brochure, je connaissais absolument rien au texte. Et donc les choses se sont faites très vite. Les rencontres aussi. Ce qui était génial, c'est que c'était un spectacle avec beaucoup de comédiens. On devait être... on était plus de 20, 25 presque, je crois. Et c'était une mise en scène très festive avec de la musique, de la danse. C'était très joyeux comme spectacle. Je me suis éclaté. En plus, corporellement, ils me laissaient faire plein de choses. J'étais ultra libre dans mes propositions. C'était trop agréable. Et du coup, comme les gens l'avaient déjà, pour la plupart, joué quelques fois, ils étaient dans une détente... incroyable, et les rencontres se sont faites naturellement, très vite, très dans la joie et dans la bonne humeur.
Et dans la préparation de cette première pièce, ou même par la suite, est-ce que tu as ressenti une patte Comédie-Française, une intention particulière ?
Une patte Comédie-Française ?
Quelque chose qui est propre à cette institution dans la manière dont ils font jouer quelque chose.
Mais je trouve que les gens... ce que j'aime beaucoup, c'est que... Donc on propose les projets déjà... Tout le monde est content d'avoir tout le temps du travail, tout le temps. Personne ne va juger les projets, personne ne va se dire « Oh non, tel metteur en scène, j'aime pas trop ce qu'il fait ». Non, non, ils savent que c'est leur métier, les gens. Ils savent que là-bas, il y a l'alternance qui s'y fait, qu'on fait 3-4 spectacles minimum par an, qu'on en joue plusieurs les mêmes semaines, à part quand on est en tournée où c'est un système un peu plus particulier, on ne joue que ce spectacle-là. Mais les gens sont joyeux, les gens aiment jouer là-bas, et ça, ça m'avait un peu manqué au conservatoire, je trouve. Qu'on se plaignait pas mal, et je trouve que là, c'est la vraie vie, c'est le travail, Et les gens sont très heureux d'y être, ils le montrent et ils le font avec beaucoup de professionnalisme.
Dans le passé, tu as joué tout aussi bien dans des séries à large diffusion que dans des films d'auteur. Est-ce qu'être un acteur populaire, au sens noble du terme, c'est quelque chose qui te plairait?
Ça m'aurait plu pendant longtemps. Pendant longtemps, comme je venais de Bouzeval en Belgique, mon petit village, je fantasmais vachement les strass, les paillettes et tout. Je me disais, mais j'aimerais devenir un grand acteur comme lui. Et finalement, je suis déjà tellement content de jouer. Bien sûr que j'aimerais être connu, mais j'aimerais bien être connu pour des choses qui me font, pour lesquelles je suis fier moi-même et ne pas être connu. Et quand on me dit, ah, on vous a vu là-dedans, faire la moue et dire, ah oui, vous m'avez vu là-dedans, bon, c'est pas très bien quand même. Mais ce que font beaucoup de comédiens au final. Et moi, j'aimerais bien juste être fier de ce que je fais. Je suis très fier d'être là aux Français, de jouer dans les pièces dans lesquelles je joue et d'être avec ces gens-là. Je suis très heureux.
Au cinéma ou au théâtre, justement, tu passes aisément de la comédie au drame, d'un genre à l'autre. C'est important pour toi de ne pas être enfermé dans une case, de pouvoir jouer de tout?
Ben oui, j'aimerais bien garder ça le plus longtemps possible.
Mais comment est-ce qu'on garde ça?
Je pense qu'il faut avoir du bol, faut pas qu'on nous enferme dans une case, faut pas que... Parce qu'à partir du moment où on joue trop régulièrement la même chose, j'ai l'impression que les gens peuvent oublier qu'on est capable de faire d'autres choses. Mais je trouve que c'est quelque chose qui est assez rare aux Français. Je trouve que tous les acteurs tournent vraiment dans des rôles complètement différents tout le temps. Mais là, déjà, je dois dire qu'au conservatoire, on m'avait plutôt mis dans une case comique, dans une case des chérubins et tout ça. Et ça me plaît énormément de jouer ça. Mais là, j'arrive au Français et ils me proposent de jouer Mafio, là, dans la reprise de Lucrèce Borgia. C'est pas du tout le genre de rôle que je joue d'habitude. Et je suis tellement content de pouvoir montrer que je suis capable de jouer ça aussi.
Et ça, ces opportunités, tu trouves que c'est difficile d'avoir des opportunités pour jouer ce qu'on veut, pour jouer des choses différentes dans une carrière de comédien?
Je pense que ça dépend, qu'il faut être vigilant. Je pense qu'on peut vite, très vite, facilement s'enfermer.
La comédie française, elle offre ça, justement, de sortir de son confort de comédien, de te sortir de ce que tu joues habituellement?
Complètement, je trouve. Là, les gens avec qui je joue actuellement, je trouve que... Là, je joue avec Laurent Natrella qui joue, j'ai l'impression, dans chaque spectacle, des rôles complètement différents qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Christian Haye, on a l'impression que Christian Haye, c'est un de mes acteurs préférés, il me fait mourir de rire. Là, il jouait il n'y a pas longtemps dans Lucrèce Borgia, et il jouait Gubetta, qui est un rôle... Là, il arrivait, il nous faisait rire quand même, mais il apportait quelque chose de terrifiant. Alors que moi, je ne l'imaginais pas du tout terrifiant à la base. Et pourtant, et j'ai regardé après des films qu'il avait fait et je me rends compte que c'est ces acteurs-là qui sont vigilants, qui arrivent toujours à... Dès qu'ils font trop... qu'ils jouent trop souvent la même couleur, ils arrivent à retourner la couleur et jouer des choses différentes toute leur vie. Et j'aimerais bien réussir à faire ça, moi aussi.
Maintenant que tu es plus familier au monde du théâtre, tu vas plus voir du théâtre, je suppose. Et toi, est-ce qu'il y a un genre auquel tu es le plus sensible?
Non. Non, j'aime beaucoup, ce qui m'a toujours plu au théâtre, c'est les scènes quand il y a beaucoup de monde sur un plateau. Et beaucoup de monde sur un plateau, je trouve que c'est toujours hyper fort et ça fait toujours des images magnifiques. Là, de nouveau, je suis content d'être au Français pour ça, parce qu'on est très souvent très nombreux sur le plateau.
Toi, si tu devais caractériser ton jeu avec quelques adjectifs, ça serait lesquels? C'est un exercice un peu difficile, mais...
Je sais pas, je dirais.
Je pense qu'en voyant, on peut imaginer un jeu très physique, en mouvement, c'est pas un peu aérien. On a l'impression.
D'accord, aérien, avec plaisir. Un petit peu maladroit quand même, je dirais. Ouais. Un petit peu innocent.
Ça, c'est le registre comique, maladroit.
Un petit peu innocent. On peut être très touchant et très triste en étant maladroit aussi.
Est-ce qu'il y a des rôles qui t'ont marqué plus que d'autres, qui t'ont poursuivi plus longtemps?
J'ai pas encore joué grand chose au théâtre, mais quand j'étais plus jeune au cinéma, on me prenait très souvent pour faire les méchants. Pour faire les méchants en carton, hein. Enfin, on voyait à quoi je ressemble. Je suis pas. Je faisais les petites brutes de cours de récré, les petits nazes, quoi.
Et c'est quelque chose qui te plaisait? Enfin, c'est comment on fait qu'on te propose toujours ce genre
d'entente? J'adorais parce que j'étais tellement une victime à l'école. Non, mais j'étais trop content de jouer ça parce que j'ai jamais été trop méchant, je pense, et ça me faisait du bien de pouvoir l'être de temps en temps.
C'est un moyen, le théâtre ou la comédie en général, de pouvoir extérioriser des trucs qu'on garde en soi d'habitude. Quand tu joues, tu ressens ça ou pas?
C'est possible, mais j'ai l'impression que ça se fait de façon très inconsciente. Quand je suis vraiment concentré, que je suis vraiment dans ce que je suis, j'ai très peu de souvenirs de ce que j'ai fait sur le plateau, de ce qui s'est passé. Et du coup, je pense que c'est... Ouais, il y a un côté thérapeutique parce qu'après, on se sent... On se sent hyper bien, on se sent comme si on s'était libéré d'une espèce de poids, mais c'est difficile à expliquer puisqu'on n'en a aucun souvenir. C'est une espèce de mini blackout, mais j'exagère. Il y a des moments bien sûr qu'il y a des moments cérébraux où on se dit « Ok, là, je suis là, il faut que je fasse ça parce que c'est obligatoire », mais il y a plein de moments de lâcher prise et c'est très agréable comme sensation.
Un des trucs qui change le plus entre le cinéma et le théâtre, c'est la temporalité. On joue très fréquemment quand on joue une pièce au théâtre. Comment tu as vécu ça avec ta première pièce à la Comédie Française, l'évolution de ton jeu?
Au début, ça m'a un peu troublé parce qu'on a tendance à comparer les représentations. On a tendance... Un film, il reste tout le temps le même. On ne peut pas le modifier. Enfin, bien sûr qu'il est un petit peu différent à chaque visionnage, mais une pièce de théâtre, c'est vraiment... Comme ça se joue avec le public, c'est différent tous les soirs. Au début, c'est perturbant parce qu'on a tendance à les comparer, à se dire « Elle était mieux celle qu'hier. Oh, ce soir, elle est géniale. Avant-hier, elle était vraiment pourrie. » Alors qu'en fait, non. En fait, c'est... Comme tu dis, c'est une espèce de... C'est un réel apprentissage. Moi, je découvre ça un peu. Le théâtre, je ne suis pas encore très expérimenté du tout là-dedans. Et je me rends compte que c'est un vrai apprentissage d'apprendre à gérer... tous les partenaires, tout ce qui se passe, gérer le public, c'est un apprentissage.
Est-ce que parfois, pour la même pièce, d'une représentation à l'autre, t'as eu l'impression de jouer deux pièces différentes?
Ouais, mais ça se fait, comme je dis, par rapport à son état personnel, à l'état de ses partenaires, à l'état du public. C'est vraiment une espèce de cohésion entre les trois, et si l'un de ces trois facteurs se modifie un peu, ça modifie toute la chaîne et ça fait une représentation différente.
Le public, c'est important quand tu joues
Oui, c'est une espèce de gouvernail, le public, en fait. C'est le point de repère principal de la pièce, j'ai l'impression. Particulièrement dans celle que je joue en ce moment, là, Les Rustres, en tournée, c'est une pièce qui marche beaucoup sur les réactions du public, qui marche beaucoup par rapport à... Et elle change à chaque fois par rapport au... Enfin, si le public est dans un état très joyeux, très jovial, on va bien sûr... Il ne faut pas aller trop dans ce sens-là, sinon on fait une pièce qui n'est pas celle du metteur en scène et ce n'est pas du tout le but. Mais il y a quelque chose, il y a un vrai échange entre le public et les comédiens et ça devient une espèce de dialogue. Alors que parfois, quand le quatrième mur est totalement là et que le public n'existe pas pour les comédiens, là, le rapport se fait beaucoup plus avec... bien sûr, le rapport, il est toujours ultra présent avec les comédiens, mais il est parfois tout aussi présent avec le public, je trouve.
Et donc ça, il y a une vraie rupture entre le moment où tu fais des répétitions, etc., et la première représentation. Comment est-ce qu'on vit cette première fois?
Avec beaucoup d'appréhension à chaque fois, mais avec une joie immense, parce que c'est quand même quelque chose à chaque fois qu'on travaille depuis relativement longtemps, quelque chose qu'on fait dans le but de le montrer. Donc à partir du moment où on se sent prêt, où la chose commence à être là, on n'a qu'une envie, c'est la montrer. Du coup, on appréhende bien sûr la réaction du public, mais on fantasme ce moment-là depuis tellement longtemps qu'on est trop content quand il arrive.
Est-ce que tu crois en la puissance de la voix?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Alors, est-ce que tu pourrais là maintenant nous dire un petit extrait de texte que tu aimes particulièrement ou auquel tu penses?
Je peux essayer, hein.
Ok, ouais.
Je peux essayer, je sais pas si je vais m'en souvenir. Mais je ne considère pas ma voix comme déjà très puissante du tout, hein. J'ai quelques idoles à ce niveau-là, mais j'ai le temps. Ouais. Hein. Faut que je fume quelques cigarettes encore. Ça arrivait toujours. À un moment, ou à un autre, il y en avait un qui levait la tête et qui la voyait. C'est difficile à expliquer, hein, je veux dire, on était plus d'un millier sur ce bateau, entre les rupins en voyage, les immigrants, d'autres gens bizarres, et nous, et pourtant, il y en avait toujours un. Un seul sur tout cela, un seul qui, le premier, la voyait. Un qui était peut-être là en train de se balader sur le pont, ou de remonter son pantalon, ou en train de manger, ben, il levait la tête, il jetait un coup d'œil sur l'océan et il la voyait. Alors il s'immobilisait là, sur place, et son cœur battait en explosé, et chaque fois, chaque maudite fois, je le jure, il se tournait lentement vers nous, vers le bateau, vers tous les autres, et il criait « L'Amérique ».
Radio Poulpe sur Radio Campus Paris.
C'était Sister de Creation Amour. Vous êtes toujours sur Radio Poulpe en compagnie de Julien Frison. Chaque mois, on donne carte blanche à un professionnel en lien avec la discipline de l'invité. Le premier à se plier à l'exercice, c'est le réalisateur allemand Lars Blumers. Bonsoir Lars.
Bonsoir.
De quoi est-ce que tu nous parles ce soir?
J'ai amené une petite chose, c'est un générique. Donc normalement, c'est la chose la plus chiante au monde, mais c'est le générique des Magnificent Ambersons de Orson Welles. Et c'est un générique de fin parlé. Et moi, je vous dirai quelque chose après parce que je trouve ça super.
Ladies and gentlemen, the Magnificent Ambersons was based on Booth Tarkington's novel. Stanley Cortez was the photographer. Mark Lee Kirk designed the sets. Al Fields dressed them. Robert Wise was the film editor. Freddie Fleck was the assistant director. Edward Stevenson designed the ladies' wardrobe. The special effects were by Vernon L. Walker. The sound recording was by Bailey Fessler and James G. Stewart. Here's the cast. Eugene, Joseph Cotton. Isabel, Dolores Costello. Lucy, Ann Baxter. George, Tim Holt. Fanny, Agnes Moorhead. Jack, Ray Collins. Roger Bronson, Erskine Sanford. Major Amberson, Richard Bennett. I wrote the script and directed it. My name is Orson Welles. This is a Mercury production.
Alors, c'est fantastique parce que il vient de la radio, donc il fait ça à la manière de la radio. En même temps, on voit des images des caméras, comment c'est fait, on voit les comédiens. Donc, je trouve ça vachement. Ça met vachement en valeur tout le monde qui est dans le film. En fait, c'est pas juste un générique genre bla, il y a encore quelqu'un qui a aidé. Ça, et après, il a ce culot génial, je trouve, de finir le film. And I am Orson Welles qui. Il faut se dire, il a 27 ans, mais il a déjà cette confiance qui est géniale, cette voix. Et il n'y a aucun deuxième degré. C'est vraiment juste direct. Et je trouve ça très bien parce que il y a trop de choses où les gens essayent d'avoir un deuxième degré et tout ça, et je pense que c'est bien aussi s'il y a un premier degré fort et on l'assume complètement et on raconte quelque chose. En tout cas, je trouve ça super chaleureux, super pour un générique. Et en plus, à la fin, il dit and this is a Mercury production, et donc peut-être j'imagine ça comme ça, mais comme c'était sa boîte de production qu'il a créée pour faire de la radio, on voit aussi que c'est une troupe, en fait. C'est pas le réalisateur qui assume tout. Je pense que en plaçant ça à la fin, il assume aussi ce fait que des choses bien en général se font parce que les gens, ils ont un réseau, une sorte de troupe, je pense, et je pense que c'est vrai avec tous les réalisateurs qui sont devenus des grands réalisateurs, qu'ils avaient une sorte de troupe. Je pense que Truffaut, il avait ses comédiens, ses gens, en fait. Oh, j'aime pas de dire ses gens, je trouve ça nul. En fait, je me corrige. Il avait des collaborateurs et qui sont importants. Et donc, je trouve ce générique super, donc je l'ai amené. Comme Julien, et aussi dans une troupe, je me suis dit, ça fait peut-être un petit lien.
Eh bien, merci beaucoup, Lars, pour ce cadeau. Julien, une réaction, peut-être, au générique?
Je me demande, du coup, chaque personne qui nomme, c'est On les filme en même temps ?
Oui, c'est genre, on les voit, un portrait.
On filme tel acteur en portrait. Ah, voilà.
Alors, exactement le même genre de portrait comme sur le site de la comédie française, genre un vrai portrait, quoi.
Oui, d'accord.
L'une des questions que pose Radio Poulpe, c'est celle de l'héritage, de l'héritage et des ruptures entre générations d'artistes. Est-ce qu'en côtoyant des pensionnaires de longue date de la comédie française, tu as été confronté à des manières de travailler totalement différentes ou à des conceptions autres du métier de comédien ? Julien.
Ouais, bien sûr. Ben, chacun a ses méthodes, a ses rituels, chacun a sa façon d'aborder ce métier-là, quoi. Ils viennent tous déjà. Une grande partie viennent du conservatoire, mais de plein d'époques différentes, de plein de moments, parce que même pensionnaire, ça ne veut pas dire jeune, hein, spécialement. Il y a des pensionnaires qui sont beaucoup plus âgés que nous, il y a des pensionnaires qui sont un peu plus âgés que nous. Enfin, bon, ça dépend. Mais on a chacun notre façon d'aborder. D'aborder le travail et parfois ce qui est agréable c'est qu'il y a de vrais échanges qui se font à ce niveau-là, intergénérationnels, même interculturels parfois, et des gens qui viennent d'endroits très loin de tes méthodes à toi et qui vont t'offrir des clés, des endroits où tu pourras travailler et t'améliorer.
Lars, toi, pour avoir travaillé avec des acteurs comme Christa Terrette ou Eric Elmosino, comment est-ce que ça se manifeste le dialogue entre les générations sur un tournage, entre les générations d'acteurs?
C'est peut-être plus le type de comédien. Eric Lemosnino, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de théâtre, qui est vraiment un comédien fantastique, et Christa Terrette, c'est quelqu'un qui a été casté dans la cour d'école et pour faire un film et qui après qui est vraiment aussi quelqu'un qui travaille vachement dur et qui apprend une sorte de technique, mais elle part, je pense, dans une sorte d'instinct naturel peut-être, et ce qu'on en tant que réalisateur quand on tourne, je pense que Après, on est une sorte de miroir, peut-être seulement, où on essaye de donner quelques avis aux comédiens pour qu'ils arrivent mieux à juger ce qu'ils ont fait, pour qu'ils comprennent si ça correspond, pour qu'ils se sentent à l'aise. Et après, on voit peut-être des... Mais je ne pense pas que c'est dû à la génération entre... Mais c'est peut-être... Il y a des gens... Par exemple, Eric Elmosnino, et je me suis toujours dit, ça vient parce qu'il fait du théâtre et qu'il n'aime pas faire beaucoup de prises. En fait, il aime bien faire 2-3 prises, il les fait à fond, il a vachement réfléchi aux choses avant. Il est tout de suite bien aussi. Tandis qu'il y a des comédiens qui sont plus, qui essayent, qui sont peut-être bons à la 5e prise. Donc ça, c'est ça qu'il faut un peu gérer en tant que réalisateur.
Oui, mais je trouve que ça existe même au théâtre, ces choses-là, cet instinct. Tout le monde n'a pas le même instinct. Et même les approches. Il y a des gens qui ont des approches, je trouve, presque... C'est pas une critique du tout, mais mathématiques, presque... Enfin, tout est vraiment... Tout est très calculé, tout est réfléchi, chaque mouvement, chaque chose, enfin, chaque virgule, chaque silence. Il y en a d'autres qui ont des... Et c'est tout aussi respectable, mais qui ont une approche beaucoup plus corporelle du rôle, qui vont aller dans une recherche plus physique. Donc entre le cérébral et le physique, chacun a ses méthodes, chacun a ses... Et puis il y en a qui ont besoin de beaucoup plus répéter que d'autres. Il y en a qui ont un instinct insensé, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont une meilleure marge de progression que les gens qui vont avoir plus de facilité ou plus difficile en commençant, mais qui vont avoir une marge de progression immense et vont pouvoir, au terme de nombreuses répétitions, réussir à complètement exploser et devenir magnifique, en fait.
Et justement, est-ce que vous pensez, et là je pose la question aux deux, que le rôle du réalisateur ou du metteur en scène, c'est de créer du lien entre les acteurs pour favoriser le partage de la connaissance et de savoir-faire pour qu'ils tentent d'autres méthodes, pour qu'ils ne restent pas enfermés dans leur travail habituel?
Ouais, je pense que bon, je vais laisser là, c'est bon, mais
je pense que oui, bien sûr, mais en même temps, le cinéma, c'est quelque chose où que le résultat compte, et c'est ça qui est aussi assez génial, en fait, les comédiens.
La confiance aussi.
Comment la sauce que chacun fait pour arriver au bon résultat, c'est vraiment
un peu sans problème. Et pour chacun, c'est différent. Et il y a des gens où ça passe pas par beaucoup d'échanges, mais il y a aussi des gens où c'est pas du tout le cas, qui n'ont qu'un instant et qui font et au revoir. Et après, quand on regarde le film, ça se voit pas en fait. On voit que ce qui est à l'image et ce que le comédien de dégage et comment il a fait, on ne sait pas. Et comme s'ils étaient des copains ou non, ou genre, tout ça, ça se voit pas.
Et puis, moi, je trouve qu'il y a plein de metteurs en scène différents. Et de nouveau, je ne dis pas qu'il y a une méthode meilleure que l'autre, mais il y a des metteurs en scène qui ont déjà tout inscrit dans leur tête. C'est des metteurs en scène qui vont faire... Ils savent exactement comment ça va se passer. Ils ont déjà la mise en scène dans leur tête ou leur film dans leur tête. Et il y en a d'autres qui vont venir faire quelque chose avec toi et qui vont venir... on va travailler ensemble. Et ça, c'est plus... Jazz, il y a un truc plus... Enfin, il va choisir ses comédiens et en fonction mais de ce qu'ils sont, en fonction de ce qu'ils dégagent, en leur faisant confiance à leur nature, on va faire quelque chose tous ensemble et il n'a aucune idée précise du résultat final. Il sait juste que lui, je vais adorer ce que ça va faire ensemble et on va faire un truc super et je suis ouvert à toute proposition. Enfin, ça dépend, mais il y a des... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode entre ces deux-là, je pense.
Aujourd'hui, on observe à l'image d'Ivo Van Hove des metteurs en scène adapter des films sur les planches ou au contraire des réalisateurs s'inspirant de textes de théâtre, le dernier exemple en date, juste La fin du monde de Dolan. Est-ce que vous-même, vous êtes sensible aux allers-retours entre ces deux disciplines, le cinéma et le théâtre?
Oui, je trouve que quand c'est réussi, c'est vraiment génial. Moi, Thomas Laferme, j'avais vraiment adoré ce film, j'avais trouvé ça génial. Je n'ai pas encore vu juste La fin du monde, mais... Je pense que quand c'est bien fait, c'est très très fort.
Et par exemple, Ivo Van Hove, au contraire, là, avec les derniers à la Comédie Française, il dégage un théâtre très physique avec des grosses scènes. Et c'est important aussi au théâtre d'utiliser le cinéma.
Oui, je pense que les grands films, les grandes pièces de théâtre, c'est une grande œuvre, ça reste une grande œuvre. Et qu'on la mette bien en scène ou qu'on la réalise bien, ça fera quelque chose de grandiose.
Lars?
Oui, et aussi je pense que c'est vraiment c'est le secret, c'est le texte. Après, moi je suis pas complètement fan de mise en scène de théâtre où les gens ils font vraiment venir des chevaux sur scène et tout ça. Je trouve que je trouve que la magie du théâtre, c'est vraiment le qui a en réalité rien, et que si on essaie d'enlever ce rien, ça pour moi ça marche pas forcément. En fait il y a il faut au théâtre, ce qui est génial, c'est qu'on croit à cette illusion et c'est ça que j'adore.
Julien, en février 2017, tu interpréteras le rôle de Matthew Orsini, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, dans Lucrèce Borgia, mis en scène par Podalides. Est-ce que tu peux nous résumer un peu quelles vont être les principales étapes de ta préparation?
Ben là, j'ai déjà appris le texte. Les répétitions commencent le 1er février. Mais déjà, là, maintenant, je suis en train de réfléchir seul, parce que c'est l'étape la plus solitaire. C'est le moment où tu lis, tu relis la pièce, tu lis sur Victor Hugo, tu lis le cadre spatio-temporel de ce moment-là.
Ça, on te donne des indications, des pistes, ou c'est toi tout seul qui va voir ce que tu veux?
Non, ça, c'est une espèce de méthode qu'on m'avait donnée au conservatoire. Je voyais les gens faire ça, j'ai essayé, j'ai trouvé ça beaucoup plus enrichissant que je le pensais, et du coup, maintenant, je retourne à ma petite... à la petite bibliothèque, mais qui est très très qui est très bien faite du conservatoire, qui est très riche en œuvres théâtrales. Et là-bas, j'emprunte mes 5-6 bouquins et puis je travaille dessus tout seul pendant quelques mois. Et une fois que le travail commence, il faut être suffisamment prêt pour que les répétitions soient utiles, je pense.
Et quand tu arrives aux répétitions, tu arrives dans un flou total ou tu sais déjà un
peu? Non, justement, je trouve que pour que les répétitions soient utiles, il faut... surtout quand il s'agit de reprises.
Dans un flou par rapport à ce que tu vas faire dans les répétitions, je voulais dire.
Oui, non, mais je sais plus ou moins déjà... Surtout dans les reprises, en fait. Là, c'est une reprise, du coup, j'ai déjà des captations, je peux pas faire ce que je veux. Hein, Mais en parallèle à Lucrèce Borgia, on va commencer les répétitions d'Arthur Ouy en même temps, La Résistible Ascension d'Arthur Ouy de Brecht, et là c'est une création, et du coup là, ça va être ma première création en plus à la Comédie Française, je n'ai aucune idée de comment ça va se passer, et du coup je fais ma petite méthode habituelle, je vais apprendre mon texte, je vais m'imprégner un peu de l'époque, je vais regarder des films qui vont m'inspirer, je sais pas, des choses comme ça, lire des livres qui vont m'inspirer aussi, et ensuite j'irai disponible en répétition. Mais par contre, pour les reprises, je sais exactement, il faut que je connaisse chaque déplacement, il faut que je connaisse chaque mot du texte, parce que ça va très vite les répétitions. En 2 semaines, on refait la pièce, quoi.
Est-ce qu'à l'avenir, il y a une pièce ou même un rôle que tu aimerais particulièrement jouer à la Comédie Française ou ailleurs?
J'aimerais beaucoup jouer Scapin un jour.
Jouer Scapin?
Oui, j'aimerais beaucoup jouer Scapin.
Merci Julien Frison d'avoir été notre invité.
Ah, de rien, merci à vous.
Merci Lars Bloomers aussi. Merci Lynn Borgen pour ta clonique. Merci aussi à Tiffany à la réalisation. Merci à Collapsing Market pour la musique du générique. Radio Poulpe, une émission produite et présentée par Jules Bruxelles.